je dirais, d'un point de vue philosophique, en phénoménologie, par exemple, effectivement, il y a les apparences, mais il y a aussi l'apparition. Qu'est-ce qui permet aux choses d'apparaître? Qu'est-ce qui les fait apparaître? Qu'est-ce qui permet qu'elles se manifestent? Et c'est ça que, petit à petit, on apprend à voir. Donc, je vois les choses, je vois l'espace dans lequel apparaissent les choses, la lumière dans laquelle apparaissent les choses. Et puis, il y a ce moment aussi où je vois celui qui voit. C'est ça qui me semble le plus important. C'est qu'est-ce qui me permet de voir la lumière. C'est-à-dire là, il y a comme une métanoïa, c'est-à-dire un retour, ou épistrophé en grec, c'est-à-dire un retour sur soi-même. J'essaye de voir celui qui voit. C'est ça qui devient intéressant. Qu'est-ce qui en moi est capable de voir? Qu'est-ce qui en moi est capable d'écouter? J'entends votre voix, j'entends vos questions, j'entends le bruit que fait notre conversation, et c'est sur un fond de silence. S'il n'y avait pas ce silence, nos bruits, nos paroles ne pourraient pas s'exprimer. Et puis, je m'interroge sur qu'est-ce qui parle? Qu'est-ce qui parle en vous? Qu'est-ce qui parle en moi? Qu'est-ce qui permet à ce bruit qu'on fait avec notre bouche qu'on se comprenne un petit peu? Pas encore très bien. Il y a un petit peu de sens qui commence à émerger. D'où vient, je dirais, cette conscience, finalement? Parce qu'il y a de la conscience entre nous aussi. Autrement, on ne pourrait pas se comprendre ni même s'écouter. Mais d'où nous vient cette conscience? Et pour moi, la connaissance de ce qu'on appelle Dieu, c'est encore une fois entrer dans la vie de ma vie. Dieu n'est pas un autre monde ou un arrière-monde, comme pouvait le dire Nietzsche. C'est le cœur du monde, c'est le cœur de mes sens, c'est le cœur de ma vision, de ce que je vois, de ce qui me permet de voir, c'est le cœur de ce que j'entends, de ce que je touche. Là aussi, souvenez-vous que la première expérience de Dieu de quelqu'un comme Teilhard de Chardin, c'est en touchant un morceau de minerai. C'est-à-dire, il touche le minerai, c'est bien la matière, mais dans le minerai, il touche de l'impalpable, de l'insondable, ce qui fait apparaître le minerai, ce qui fait exister le minerai, qui fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien. C'est comme s'il touchait, justement, cet insaisissable. Je crois que chacun de nous, il y en a qui sont visuels, d'autres davantage auditifs, c'est par la musique que Dieu leur vient à l'idée, d'autres c'est par le contact que Dieu leur vient à l'idée, d'autres c'est par le goût. J'aime bien rappeler le mot sapienza, la sagesse qui vient du verbe sapere, qui veut dire goûter. Il s'agit de goûter, c'est une saveur. Il y a différentes saveurs, épicées, sucrées, puis il y a une saveur, comme le disent bien les Japonais, c'est pas le fade, mais c'est encore quelque chose comme ça, une saveur sans saveur. Et c'est intéressant de voir que chez les soufis, par exemple, dans la tradition de l'islam, l'expérience de Dieu, ce sont des saveurs. Chaque climat, chaque moment de conscience a une certaine saveur. Et il s'agit d'apprendre à goûter, d'avoir du goût. Et le sage, c'est celui qui sait goûter le goût de l'un dans la multiplicité des choses, des événements, des saveurs. Il goûte l'unité, l'un.
Vous avez parlé de la vision et dans votre livre, vous allez jusqu'à écrire qu'être athée, c'est manquer de vision. Vous précisez, l'athéisme est une maladie des yeux, cela se soigne, il s'agit de retrouver la vue, la vision. Être athée, c'est en quelque sorte être malade pour vous, Jean-Yves Leloup ?
Être athée comme être religieux. Ce que je dis, c'est que l'athéisme est une maladie des yeux. La religion aussi est une maladie des yeux. Alors, dans quel sens? Athéos, c'est-à-dire le mot théos en grec, c'est qu'on va traduire ensuite par Deus et par Dieu. Le mot théos renvoie davantage à effectivement, un état de vision, comme dans le mot théoria qu'on retrouve chez Platon, un état contemplatif, un état de contemplation, un état de vision, où on voit la lumière. Et être athée, justement, chez les anciens, c'est une maladie, c'est être privé de vision. C'est-à-dire, je vois les choses, mais je ne vois pas la lumière dans laquelle les choses apparaissent. Donc, je suis comme éborgné, et oui, je manque de vision. C'est vraiment une maladie, une souffrance. Hein, aujourd'hui, c'est presque une gloire pour beaucoup d'être athée. Hein, on s'affirme, on se vante d'être athée. Pour les anciens, c'est un drame. C'est-à-dire que je ne vois que les apparences. Je ne vois plus l'apparition des choses. Je ne vois plus l'essence de la vie et de mon existence. Donc, effectivement, c'est une maladie des yeux. Et la religion est aussi une maladie des yeux, parce que je peux faire d'un concept, je peux faire d'une image de Dieu, d'une représentation de Dieu, je peux en faire le Dieu. Hein, c'est-à-dire, là, j'ai les yeux bouchés. Hein, c'est ce qu'on appelle une idole. Hein, la différence entre l'idole et l'icône, par exemple, l'idole me remplit les yeux, m'en met plein la vue, tandis que l'icône m'ouvre les yeux à l'invisible, m'ouvre les yeux à l'insaisissable.
Donc aujourd'hui, Jean-Yves Leloup, il y a de plus en plus d'athées, il y a de très nombreuses personnes qui sont religieuses, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de malades sur Terre, si je comprends bien votre raisonnement.
Ben, je crois qu'on est on est tous plus ou moins malades, hein, parce qu'on est tous plus ou moins athées, plus ou moins religieux.
Hein, mais vous êtes plus ou moins athée ou plus ou moins religieux, vous, Jean-Yves Leloup ?
Ben, j'essaye de m'en sortir, j'essaye de me soigner, j'essaye de me guérir, à la fois de la religion et de l'athéisme.
Hein? Mais donc comment se guérir alors? Je me soigne. Comment se soigner efficacement, Jean-Yves Leloup? Ben, vous avez parlé du silence tout à l'heure.
Ben, voilà, je crois que ça c'est...
Il faut se taire?
Justement, faut se taire, oui, je crois qu'il y a un retrait des projections, c'est-à-dire... introduire du silence dans ma perception, c'est-à-dire voir les choses sans m'y projeter. C'est pas facile. Là, je pense à ce que me disait Dalai Lama, on en a souvent parlé, qui me disait, mais beaucoup d'Occidentaux croient que le nirvana, c'est un état de conscience particulier qu'on recherche, qui serait savoureux, merveilleux, etc. Alors que le nirvana, c'est pas un état de conscience, c'est la conscience. C'est la conscience qui est présente dans tous ces états. Et quand je lui demandais justement de me donner un peu quelques précisions sur le nirvana, il me répond « Le nirvana, c'est voir les choses telles qu'elles sont ». C'est vrai que sur le moment, je me suis dit que c'était pas très planant, ça fait pas très planer, alors que je m'attendais à une définition du nirvana un peu merveilleuse, etc. Et en même temps, je me rends compte qu'effectivement, je n'ai jamais vu les choses telles qu'elles sont. Je les vois toujours à travers, je dirais, mon mode de perception, mes projections, à travers le paquet de mémoires, qu'on appelle notre moi, notre ego, hein, ce paquet d'histoires, de mémoires qui se projettent sur le quotidien, sur ce que l'on voit, sur la réalité.
Mais et comment donc, faire autrement ?
Effectivement, l'exercice. Ben justement, l'exercice, c'est de calmer un petit peu toutes ces mémoires, essayer de retrouver ce regard innocent, ce regard, certains diront angélique, ce regard premier, on voit les choses telles qu'elles sont. Et là, la définition que donne le Dalai Lama du nirvana, c'est celle que donne le Bouddha lui-même 6 siècles avant Jésus-Christ, mais l'évangile reprend tout à fait ce terme-là. Quand Jésus dit « ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas ». Est, est, non est, non est. Hein, on traduit généralement que votre oui soit oui et que votre non soit non. Hein, mais si vous regardez le texte, est, est, ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Et tout ce qu'on dit de plus, ça vient du mental. Hein, certains traduisent ça vient du mauvais. Hein, donc c'est du rajouter. Donc il s'agit d'apprendre à voir les choses silencieusement, d'écouter l'autre aussi silencieusement, ne pas tout de suite se projeter avec son petit savoir sur ce qui est dit là, prendre le temps de l'écoute, enfin ça vous le savez bien. Et puis toucher les choses telles qu'elles sont, au-delà des ressentis. Et au niveau de l'amour aussi, je crois qu'apprendre à aimer quelqu'un tel qu'il est, et pas tel que je voudrais qu'il soit, c'est un long chemin. C'est un long chemin, encore une fois, vers le réel. Nous venons, du réel, et nous retournons au réel, en faisant l'expérience des réalités multiples à travers lesquelles ce réel se manifeste.
Jean-Yves Leloup, vous êtes notre invité ce dimanche. Vous venez de parler de l'amour. Eh bien, juste avant de parler avec vous de la transfiguration, voici une dose d'amour sur la première, Soufiane Stevens avec Mystery of Love. Très bel après-midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. All to see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by rogue river, feel my feet above. Sufjan Stevens sur la première Mystery of Love. Bel après-midi.
Et Dieu dans tout ça.
13h15, 14h le dimanche.
Sur la première.
Le but, le sens de la vie humaine, c'est la métamorphosis, la transfiguration. Tout change et tout se transforme sans cesse. C'est ce qu'écrit Jean-Yves Leloup, notre invité ce dimanche. Jean-Yves Leloup, vous êtes écrivain, philosophe, théologien et prêtre orthodoxe. Et l'un de vos nouveaux livres a pour titre « Les portes de la transfiguration ». Question toute simple, mais qu'est-ce que c'est la transfiguration ?
Bien, c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la métamorphosis, hein, méta, au-delà de la forme, ou le changement de la forme. Hein, c'est l'image un peu classique, c'est la chenille qui devient un papillon. Et c'est vrai que c'est là une vraie question pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire quel est l'avenir de l'homme, quel est le sens de l'humanité ? On en parle beaucoup dans les courants transhumanistes. Hein, et là, je pense à deux images. Si l'avenir de l'homme, on devient immortel par augmentation, par prolongation, par, je dirais, technologie, enfin toutes ces puces que l'on peut adjoindre à notre identité, je crois que ça me fait penser un petit peu à la grenouille qui devient aussi grosse que le bœuf, hein, et qui à un moment risque d'éclater. Je crois que certaines formes de transhumanisme peuvent nous conduire vers un éclatement. Donc à côté de l'image de la grenouille qui devient aussi grosse que le bœuf et qui éclate, je crois qu'il y a l'image de la chenille qui, en écoutant encore une fois les programmes inscrits dans son propre corps, dans son propre devenir, devient un papillon. C'est-à-dire que la fin de la chenille, le but de la chenille, ce n'est pas de rester une chenille, c'est de devenir un papillon. Et je crois que la fin de l'homme, justement, c'est effectivement de devenir Dieu. Mais comment est-ce qu'on devient Dieu ? Est-ce qu'on devient Dieu par accumulation, augmentation, comme on vient de le dire, ou est-ce qu'on devient Dieu par transformation, c'est-à-dire par ouverture de ses sens, hein, à l'infini ?
Mais qu'est-ce qui vous fait dire de sa conscience ? Nous devons devenir Dieu, nous devons, chacun d'entre nous, devenir un Dieu ?
Je ne dis pas que nous devons, je dis que nous pouvons. C'est-à-dire qu'effectivement, un chêne, un gland, peut ne pas devenir un chêne. Mais c'est dommage, parce qu'il est fait pour ça. C'est inscrit dans son programme. Hein, et qu'il y a en nous, justement, on pourrait dire dans notre intelligence, une ouverture à la transcendance.
Vous parlez du gland qui peut se transformer en chêne, de la chenille qui peut se transformer en papillon. Là, nous en avons des preuves, mais en revanche, nous n'avons qu'une preuve que l'être humain peut se transformer en Dieu, Jean-Yves Leloup.
Si, il y a tous les saints qui sont des preuves de ça. Hein. Tous les saints ne démontrent pas l'existence de Dieu, mais ils la montrent. C'est-à-dire qu'ils montrent quelquefois une qualité de patience plus qu'humaine, une qualité d'amour, de persévérance, même une force physique. Hein. Donc c'est vrai que c'est ça qui me semble curieux quelquefois. Quand on étudie l'être humain, on l'étudie à partir de ses pathologies, à partir de ses ratés d'une certaine façon, hein, dans une certaine forme d'études psychologiques qu'on étudie. Et pourquoi est-ce qu'on n'étudierait pas l'être humain à partir de ses réussites, que sont les sages, que sont les saints, et qui témoignent donc dans un corps humain de cette ouverture à la transcendance, de cette ouverture à quelque chose qui n'est pas de l'ordre du temps, qui n'est pas de l'ordre de la mort, qui n'est pas de l'ordre de l'espace-temps. Et c'est ça qu'on appelle la transfiguration. C'est le témoignage dans une finitude acceptée. Il ne s'agit absolument pas de nier notre finitude, notre mortalité, mais au cœur de notre être mortel, il y a de l'ouvert, il y a de l'ouvert à une autre dimension. Et c'est tellement dommage de s'en priver et de s'enfermer. C'est ça l'enfer, hein, c'est l'enfermement dans l'être pour la mort. Hein, comme si nous n'étions que mortels. Nous sommes des mortels, comme la chenille doit mourir pour s'éveiller à l'état de papillon. De la même façon, nous restons tout à fait mortels, mais nous pouvons nous éveiller à une conscience, à une qualité de conscience, à une qualité d'amour, à une qualité de vie et de lumière, effectivement, qui déborde notre être pour la mort.
Mais pour s'ouvrir au plus qu'humain, pour aller vers la transfiguration, il faut tout de même avoir la foi, Jean-Yves Leloup.
La foi, oui, dans son sens premier du terme, qui veut dire l'adhésion. Vous savez que le mot foi, la pistis, vient du mot aman ou enouma en hébreu, qui veut dire adhérer. C'est-à-dire la foi, c'est adhérer au réel, au cœur des réalités. C'est par notre adhésion à la aux profondeurs du réel que on entre dans le. La foi, c'est pas une croyance dans une représentation de Dieu, dans une image de Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. La foi, c'est l'adhésion à la fois, je dirais, corporelle, sensorielle, affective et intellectuelle au réel caché dans le manifesté, dans les réalités qui le manifestent. C'est ce que dira encore une fois l'Évangile quand le Christ dit « Celui qui croit en je suis ne mourra pas hein, ». C'est celui qui découvre en lui la source de son être, du « je suis » qui est, hein, qui lui permet de dire « je » lui-même, eh bien, est au-delà de la mort. Hein, c'est-à-dire la conscience qui est consciente de la mort est plus grande que la mort elle-même, comme la conscience de la douleur est plus grande que la douleur elle-même. Donc il s'agit de faire l'expérience de cette conscience.
On va écouter Jean-Yves Leloup, celles et ceux qui nous racontent le transhumanisme, qui nous racontent le post-humain.
Aujourd'hui, notre espérance de vie croît de 3 mois chaque année. Ce qui signifie que quand nous vieillissons d'une année, nous ne nous rapprochons de notre mort que de 9 mois. Jusqu'où ce recul de la mort peut-il aller ?
Vous dites, en gros, on peut augmenter l'être humain. On peut l'améliorer. En quoi on va l'améliorer exactement ?
On a aujourd'hui une maladie qui est bien connue, qui s'appelle la rétinite pigmentaire et qui rend les gens aveugles. Bon. Et donc, une firme allemande a trouvé le moyen d'inventer une petite puce électronique qu'on greffe derrière la rétine. Elle rend la vue. Imaginez que ces petites puces se perfectionnent et que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, peu importe, elles nous permettent d'avoir une vue d'aigle.
C'est quand même magnifique ce type d'information, Jean-Yves Leloup, non ?
Bien sûr, oui, d'avoir une vue d'aigle, c'est magnifique, mais avoir une vue humaine, vraiment humaine, c'est-à-dire avec une certaine tendresse, un certain respect, est-ce que ça ne vaut pas toutes les vues d'aigle ?
Vous écrivez, il nous arrive parfois de ne faire qu'un avec la vie avec un V majuscule, d'être la vie. Dans quel cas est-ce que ça vous est arrivé récemment ?
Ben, je pense que ça arrive sans cesse, parce que j'aime bien faire la différence entre la vie que j'ai, que bientôt je n'aurai plus, hein, encore peut-être quelques années, et puis la vie que je suis, hein, la vie que je suis, et que j'étais et que je serai. Hein. Quand on parle de Dieu, il était, il est, il vient, c'est-à-dire cette dimension infinie dans laquelle mon être fini est en train